régner sur un roi qui a été demandé par le peuple. Et j'insiste là-dessus, qui était roi d'Israël jusque-là? C'était Dieu lui-même. Et ils étaient bénis de toute bénédiction par Dieu lui-même, qui les a conduits à travers le désert. Au désert, on y trouve des pâtisseries, au désert, on y trouve beaucoup de pain, c'est vrai? Non, il n'y a rien au désert. Eh bien, ils ont eu du pain pendant 40 ans. Au désert, il n'y a souvent pas d'eau. Ils ont eu l'eau pendant 40 ans, par un rocher. Et c'est Dieu qui leur donnait tout cela. Puis à un moment donné, ils ont voulu un roi. Alors le dernier des les prophètes qui a parlé aux Israélites, c'était qui? Samuel. Et c'est lui qui a fait l'erreur. C'est à cause d'une erreur de Samuel, donc un homme de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas dire, oh ben ça c'est un homme de Dieu, il ne peut rien lui arriver. Il peut tout vous arriver. Et c'est pourquoi nous désirions que dans ce camp, nous puissions comprendre cela. Nous n'avons aucune sécurité charnelle. Et nous allons voir que les gens les mieux préparés peuvent tomber. Et que pour nous, la foi, c'est quelque chose de quotidien. Et si vous reprenez l'Évangile, vous voyez que le Seigneur nous demande de vivre moment après moment. Il dit, à chaque jour, suffit sa peine. Mais nous, la plupart du temps, nous envisageons toutes les circonstances qui pourraient nous arriver dans un mois. Un mois à l'avance. Et la force, il la donne pour quand? Pour un jour, chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Nous avons ça dans le chapitre 6 de Matthieu. Alors, si nous prenons à l'avance toutes les circonstances qui pourraient nous arriver, n'ayant de force que pour un jour, qu'est-ce que nous sommes? Des chrétiens écrasés. Et il y a un tas de chrétiens qui sont rampants. Chrétiens écrasés, parce qu'ils ne vivent pas au jour le jour, parce qu'ils ne vivent pas moment après moment. Ils prennent toutes les peines à l'avance, ça n'ira pas, ceci, cela. Alors que vous allez avec une chose au Seigneur, il vous donne la force, puis vous continuez. Mais nous allons voir pourquoi j'insiste sur ce fait qu'il faut lire toute la Bible, depuis la première page à la dernière. Sans ça, vous n'aurez jamais une connaissance globale de l'Écriture, et il y a des choses que vous ne comprendrez pas. Quelle a été l'erreur de Samuel? Un homme de Dieu, hein? Et vous connaissez comment il a été tout petit dans la dépendance de Dieu. Et il avait de mauvais exemples. Le vieil Élie, le sacrificateur, avec qui il travaillait, sous les ordres duquel il se trouvait, il avait mal élevé ses enfants. Et Dieu lui reprochait, n'est-ce pas, d'honorer ses fils plus que Dieu. Et quand on entend des parents qui disent qu'ils adorent leurs enfants, ce sont des païens. On n'adore pas son enfant, on l'aime. Et parce qu'on l'aime, on le discipline. C'est pas lui qui est roi. Et il doit le savoir que le chef de famille, c'est le père ou la mère. Mais nous voulons prier. Dieu notre Père, nous savons que sans ton esprit, nous ne comprendrons rien, nous ne pourrons rien faire. Mais tu nous as rappelé ce matin que le fruit de l'esprit, c'était l'amour, la joie, la paix. Et nous voudrions que dans cette étude, nous ayons cette joie, cette paix, et par-dessus tout cet amour, qui nous fera devenir maîtres de nous-mêmes. Tu nous donneras cette maîtrise de soi. Ta parole nous dit que celui qui est maître de lui-même, il est plus fort que tous. Nous te demandons que tu nous donnes cette certitude qu'en toi nous pouvons trouver la force nécessaire pour aller jusqu'au bout, pour accomplir non pas ce que nous imaginons pour toi, mais ce que tu as demandé que nous fassions. Et c'est ce que nous te supplions de nous montrer ce matin. Que nous ne soyons pas à côté de la vérité. Il y a des choses que tu ne nous as pas demandées et nous voulons les faire. Garde-nous de cela. Et qu'ainsi nous accomplissions ta volonté. En Jésus. Amen. Eh bien, puisque je vous ai dit qu'il y a une erreur dans la vie de Samuel qui a provoqué, au fond, la demande d'Israël qui voulait un roi comme les autres nations. Vous prenez dans 1 Samuel... Il va trouver le verset, chapitre 8. Lorsque Samuel devint vieux, ça vous arrivera aussi? Peut-être. C'est déjà arrivé. Il faut compter avec ça. Hein? Lorsque Samuel devint vieux, donc vous pouvez étudier la vie de Samuel jeune, alors c'est merveilleux, hein, et on aime raconter ça aux enfants. Mais lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Est-ce que c'était lui qui devait faire ça? Non! Il a établi ses fils juges sur Israël. Le nom de son fils aîné était Joël. Oh, c'était beau, hein? Il y avait toute la vie de Joël qui aurait pu l'inspirer, est le nom du second Abia. Ils étaient juges à Beersheba, la ville du serment. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils avaient un penchant pour le profit. C'est ce qu'ils avaient appris de leur père? Non. Parce que leur père avait demandé à tout Israël, est-ce que je vous ai lésé en quelque chose? Est-ce que je vous ai pris un âne? Est-ce que je vous ai pris quelque chose? Et le peuple entier avait dit non. Hein. Ils avaient un penchant pour le profit. Ils recevaient des présents et portaient atteinte au droit. Donc ils ne marchaient pas dans la justice. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama, où il habitait, et lui dirent, « Voici que tu es vieux, et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous, pour nous juger, un roi comme en ont toutes les nations. » Mais toutes les nations suivaient quoi? Des faux dieux. Hein. Alors, ils ont vu que dans toutes les autres nations, c'était le roi qui jugeait. Nous voulons être comme les autres nations. Mais ils avaient pourtant un roi. Qui était leur roi? Dieu lui-même. Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, donne-nous un roi pour nous juger. Alors Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne pas sur eux. Au fond, c'est ça. On ne veut pas du règne du Seigneur sur nos vies. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Malgré toutes les délivrances que Dieu avait données à son peuple, le peuple n'avait pas compris. Ils m'ont abandonné pour rendre culte à qui ? À d'autres dieux. Ben, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous sommes en plein dans l'actualité. Maintenant donc, écoute leur voix, mais avertis-les solennellement et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Qui c'est qui avait régné sur eux jusque-là? C'était Dieu qui les avait bénis de toute bénédiction. Samuel redit toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, voici les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il en disposera pour ses chars parmi les cavaliers. Ils courront devant son char. Il en disposera comme chef de 1000 et il en disposera comme chef de 50, aussi bien pour labourer ses terres, récolter sa moisson, fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Ça sera des occupations. Il prendra, mais regardez le nombre de fois qu'il est dit il prendra. Il prendra vos filles. Il prendra les meilleurs de vos champs, vos vignes, vos oliviers. Il les donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme de vos semences, de vos vignes et la donnera à ses chambellans, à ses serviteurs. Il prendra. Voilà un gouvernement, n'est-ce pas, qui a besoin d'argent. Les meilleurs de vos serviteurs et de vos servantes, de vos jeunes gens, de vos ânes, il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de votre petit bétail et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, qu'est-ce qui arrivera? Vous crierez contre votre roi, que vous aurez choisi. Et qu'est-ce qu'ils avaient choisi? Saül. Mais ce jour-là, l'Éternel ne vous répondra pas. Il n'y a pas d'exaucement de prière. Il y a une raison. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils. Il y a un non qui est dit. Alors, nous espérons qu'il y aura un oui qui sera dit ici. Il y aura un roi sur nous. Ils l'ont voulu. Et nous aussi, nous serons comme les autres nations. C'est ça que nous voulons, ressembler à tous. Notre roi nous jugera, il sortira devant nous, conduira nos guerres. Samuel entendit toutes les paroles du peuple et les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix, tu établiras un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans votre ville. Alors, ce roi qu'ils ont choisi, vous l'avez au chapitre 9. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kish, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Béroca, un Benjamin. C'était un homme puissant et important. C'est ce qu'on recherche toujours. L'homme puissant et important. Il avait un fils du nom de Saül, homme d'élite et très laid et beau. Hein, on est touché par sa beauté. Plus beau qu'aucun des Israélites et il les dépassait tous de la tête. Puis alors après, vous pouvez lire tout ce qui leur est arrivé. Les ânes de Kish, père de Saül, s'égarèrent et donc, Kish dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va rechercher les ânes. Puis alors, ils s'en vont rechercher les ânesses. Ils ne les ont pas trouvées. Deux fois, il est dit, ça n'a pas réussi du tout, cette recherche des ânesses. Quand on n'est pas avec le Seigneur, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Finalement, ils vont jusqu'à trouver Samuel, le prophète, qui, au verset 14, comme ils arrivaient au milieu de la ville, ils sont arrivés dans une ville, toujours sans trouver les ânesses, Samuel sortit à leur rencontre en montant vers le haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avertit Samuel. Quand nous sommes avec le Seigneur, il nous avertit. Nous avons des avertissements très clairs. Et nous avons un Dieu qui sait encore nous parler. Et c'est toujours très court ce qu'il nous dit. Vous pouvez être sûr que c'est court. Et alors, s'il vous a parlé, ça doit toujours correspondre à un texte biblique. Je me souviens, puisqu'il y a quand même... J'étais 20 ans marié avec ma première femme, jusqu'à ce qu'elle me soit reprise en 2 minutes. Elle est partie. Eh bien, je devais partir longtemps, loin d'elle, et j'ai prié. On pouvait être en souci, parce que je laissais ma femme et les enfants. Et quand j'étais à genoux, j'ai entendu « Occupe-toi de moi, je m'occuperai de toi. » C'est une parole qui m'a été donnée intérieurement. « Occupe-toi de moi et je m'occuperai de toi. » Est-ce que mon imagination, non, c'était lui. Pour quelle raison? Il y a un texte qui dit à peu près la même chose dans le chapitre 20, dans le chapitre. Vous voyez, la mémoire commence à me manquer. Hein. C'est dans les Romains, chapitre 8, verset 28. Vous connaissez le verset? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Tout, littéralement, toute chose travaille. Ça fait mal, hein? Peut-être. Mais c'est un travail de Dieu. Toute chose travaille. Tout ce qui arrivera travaille pour ton bien. Alors j'étais tranquille. Et voilà comment Dieu nous parle. Mais je vous dis, c'est toujours très court. Mais ça nous confirme la parole de Dieu. Et alors, ces paroles deviennent une lampe à nos pieds, comme le dit le psaume 119, et une lumière sur notre santé. Alors, on va avec une certitude. Et puis, notre prière est toute inspirée de cette parole. Et on lui dit, quand ça va mal, tu l'as dit, Seigneur. Tu m'as dit cela. Et on y tient. Et le Seigneur le réalise. Nous avons un Dieu qui nous exauce, est-ce que vous le croyez? Mais prenez-le, et puis, il ne vous demande pas de vous souvenir de tout un chapitre, il vous demande une parole. Alors, mettez-la dans votre cœur. Et alors, je passe sur ce chapitre 9. Il y a eu un entretien avec Saül et Samuel au chapitre 9. Samuel avait donné un rendez-vous à Saül, verset 25. Ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et lui dit « Lève-toi, je te laisserai partir. » Saül se leva, ils sortirent dans la rue tous deux ensemble, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül « dis à ton serviteur de passer devant nous. Celui-ci passa devant et il lui dit cela. Dans notre salle de réunion du refuge à Nice, j'avais mis ce texte il y a 40 ans. Arrête-toi maintenant et je te ferai entendre la parole de Dieu. C'est cela notre mission. C'est de vous faire entendre la parole de Dieu. Mais pour ça, il faut qu'on s'arrête. Alors Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa. Il n'a pas fait la tête, malgré tout ce qu'il savait de lui. Et il dit, l'Éternel t'a donné l'onction. Vous voyez que Dieu avait donné même l'onction à Saül pour que tu sois le conducteur de son héritage. Mais il avait une mission, tu dois être le conducteur de son héritage. Puis il lui dit les signes qui vont convaincre Saül que c'est vraiment Dieu qui a parlé. Et au verset 6, vous voyez que les signes s'accomplissent. Et l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec les prophètes et tu seras changé en un autre homme. Il y a eu comme une conversion chez Saül. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. Et qu'est-ce qu'on trouve à faire quand on est dépendant du Seigneur ? Sa volonté. Ce que Dieu a préparé pour nous. Car Dieu est avec toi. Il y a eu un moment où Dieu a été avec Saül. Puis tu descendras devant moi à Gilgal, alors à mon tour, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes, des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te fasse connaître ce que tu dois faire. Donc, vous voyez, Dieu ne nous dit pas tout à l'avance, mais il nous prépare. Et il nous dit que nous recevrons au moment opportun la direction. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Donc, il y a eu un changement chez ce Saül. Et tous ces signes se produisirent quand ? Le même jour, donc quand c'est Dieu qui parle, c'est le même jour, c'est des fois la même heure. On a réalisé certaines choses hier encore, qu'il y a eu des prières et elles ont été exaucées. Dieu s'empara de lui et il a même prophétisé. Verset 17. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mispa. Et il dit aux Israélites, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui ai fait monter Israël d'Égypte. » C'était vrai ? C'était vrai, hein ? « Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. » Verset 19. « C'est vous qui aujourd'hui rejetez qui ? Votre Dieu. » qui vous a sauvé de tous vos malheurs et de toutes vos angoisses. Alors, ça, vous pouvez relire les 5 premiers livres de Moïse, hein, la Genèse, Exode, le Lévitique, etc., et voir comment le peuple a été délivré de l'Égypte. Et maintenant, vous dites, établis un roi sur nous, présentez-vous demain devant l'Éternel, selon vos tribus, selon vos milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël. Et puis, c'est là que finalement, on trouve Saül qui, dans ce dernier moment, avant qu'il soit couronné roi, a eu peur et s'était caché. Mais on a beau se cacher quand le Seigneur nous veut et nous fait sortir du lieu où nous nous trouvons. Voyez verset 22. On consulta de nouveau l'Éternel, parce qu'on a cherché Saül et on ne l'a pas trouvé. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ? Et l'Éternel dit, voici, c'est toujours l'Éternel qui parle. Il est caché du côté des bagages. On courut le tirer de là, il se présenta au milieu du peuple, il les dépassait tous de la tête. C'est répété. Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi ? Il n'y a point d'homme comme lui dans tout le peuple. » Tout le peuple lança une clameur et cria, « Vive le roi !» Ils l'ont nommé roi. Mais est-ce que c'était la pensée de Dieu ? Il a permis cela. Puisque vous ne me voulez pas, vous aurez celui que vous avez choisi. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Il n'y a pas de contradiction. Vous voulez ça ? Eh bien, vous l'aurez. Verset 25. Samuel formula pour le peuple le droit de la royauté et il l'écrivit dans le livre qu'il déposa devant l'Éternel, puis Samuel renvoya tout le peuple. Et si vous lisez la Bible, vous voyez que cette question qu'un jour on demanderait un roi, Moïse en avait parlé. Dans quel livre ? Le livre du Deutéronome. Et il avait dit, et c'est important pour les rois que nous étudions, Deutéronome, quel chapitre ? 17. Verset 14 du chapitre 17. Ils sont encore près de Jéricho à la fin du désert. Lorsque tu seras entré dans le pays, chapitre 17, verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras et que tu diras, qu'est-ce qu'il dira ? Je veux établir sur moi un roi comme toutes les nations qui l'entourent. Il n'y a rien de nouveau. Ce sont des choses qui étaient annoncées. Tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. C'est bien ce qu'il a fait finalement. Mais tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Et ce qui me frappe, c'est que tout ce que Dieu avait demandé, avait annoncé de ne pas faire, c'est ce qu'ils ont fait. Exactement. Et notre Salomon, il a été touché par ça, verset 17. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Pourquoi ? Afin que son cœur ne s'écarte pas et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or quand il s'assiera sur son trône royal. Et qu'est-ce qu'il fera ? Il écrira pour lui un livre, un double de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Et vous savez, quand on lit la parole tous les jours de notre vie, eh bien, elle entre dans nos cœurs. Afin qu'il apprenne quel est le résultat de la lecture biblique, c'est la crainte de l'Éternel. C'est pas qu'on a peur de lui, mais on voudrait pas lui déplaire. Et on apprend à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ces prescriptions pour les mettre en pratique. On ne dit pas, oh mais maintenant ça a changé. Tout le monde le fait. Et nous voulons faire comme tout le monde. Mais c'est pas ça être chrétien. Être serviteur du Seigneur. Que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, qu'il ne s'écarte pas de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui, ses fils, au milieu d'Israël. Est-ce que ces rois dont j'ai mentionné les noms hier soir ont mis ça en pratique ? Non. Saül n'a pas mis ça en pratique. David même n'a pas mis cela en pratique. Il a eu beaucoup de foi. Et ça n'a pas aidé. Et Salomon, il a bien écrit, on pense que c'est lui qui a écrit les Proverbes, le Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste. Hein. Mais il a écrit pour les autres. Mais il n'a pas vécu ce qu'il a écrit. Mais quand un roi était nommé, il devait lire ce chapitre 17 du Deutéronome et il devait en faire une copie. Et cette copie, il devait la lire tous les jours. Ils n'ont pas fait cela. Alors, je vous dis cela simplement pour vous montrer comme c'est important de lire toute la Bible depuis la première page à la dernière. Sans ça, c'est des versets isolés que vous prenez, puis vous en faites n'importe quoi. Mais c'est un ensemble de vérités qui nous sont données par l'Écriture. Alors, on prend tellement de temps pour tant d'autres choses, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas de temps de lire depuis la première page jusqu'à la dernière? Vous me direz, mais moi je suis trop vieux. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'avais un grand-père qui s'est converti à 70 ans et qui a vécu jusqu'à 90 et qui, depuis ce moment-là, il a lu la parole depuis la première page à la dernière. Puis quand je lui disais, quand t'as fini, qu'est-ce que tu fais? Je recommence. N'est-ce pas? Et il a été complètement transformé. Et pourtant, il avait des habitudes très mauvaises. Il buvait de temps en temps, et même, il avait couru après sa femme et mon père avec une hache, quand mon père avait 9 ans. Il a été converti, et je lui ai dit souvent, ma grand-mère, sur les genoux de laquelle j'étais élevé aussi, me disait, tu sais, je ne le verrai pas, mais grand-papa sera sauvé. Elle le disait, hein? Je ne le verrai pas, mais grand-papa sera sauvé. Il a été sauvé quand? Le jour d'enterrement de sa femme. Et à ce moment-là, il avait tous ses amis de village, n'est-ce pas, qui voulaient l'entraîner à la boisson. Il a tout rompu. Ce qui ne l'empêchait pas, il n'a pas signé l'abstinence, mais il pouvait boire un verre de vin dans nos familles. Il était un jour chez mon père, un jour chez mon oncle, un autre jour chez l'autre oncle, et on était dans la même maison. Eh bien, le Seigneur délivre, sans mettre une contrainte, puis ne nous rend pas esclaves. Mais je le vois encore, lisant sa Bible. Et il me disait un jour, quand j'étais à Lévin au milieu des malades et qu'il avait 89 ans, la dernière fois qu'il est venu me voir là-haut, et je lui disais, mais grand-papa, t'as dû avoir de terribles tentations. Il dit, oh oui, quand je passais devant l'auberge, j'avais soif. Chaque fois que je passais devant l'auberge, j'avais soif. Alors j'allais plus loin et la soif me quittait. Il faut, n'est-ce pas, savoir que être au bon endroit, comme on l'a vu avec David. Mais revenons à nos moutons. Hein. Il y avait donc un roi qui s'appelle Saül, qui a été demandé. Alors, si vous étudiez la vie de Saül, c'est pas cette vie-là que nous allons étudier aujourd'hui, mais la vie de Saül, qu'est-ce qu'il est devenu? L'ennemi de son gendre, David. Et il a cherché à le tuer. Alors que pourtant, il l'avait aimé au début, ce jeune homme qui avait tué Goliath. Mais pourquoi est-ce qu'il est dit quelquefois que les femmes doivent se taire? Qui est-ce qui a provoqué la jalousie de Saül contre David? C'est des femmes qui se sont exaltées pour un bonhomme. Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Et c'est ça qui est entré dans son cœur. Il en donne 10 000 à ce jeune homme, puis à moi, on m'en donne que 1 000. Que vos femmes se taisent. Faut pas qu'elles s'exaltent. C'est toujours dangereux. Mais elles ont un ministère, elles ont une tâche merveilleuse. Si elles sont à leur place, et ça vaut la peine de lire l'Écriture et voir la place que Dieu donne aux femmes, et que Paul, ce que Paul dit des femmes, je suis des fois navré de voir qu'on pense toujours que Paul était contre les femmes. Les théologiens le disent, mais c'est pas vrai. Ils n'ont pas lu la Bible ou ils n'y croient pas. La Bible n'a pas d'autorité sur leur cœur. Nous voulons rester avec ce que la parole de Dieu nous dit. Et si vous voulez être convaincu de cela, bien lisez ce qu'il est dit des femmes dans une des épîtres de Paul, ce que Paul dit. Il parle de ces femmes comme des mères. Elles ont été, chapitre 16 de Romains, il y a un tableau que Paul fait du ministère de la femme. Mais c'est un ministère particulier, qu'un homme, quand il veut le faire, il ne réussit pas. Chacun a sa place. Et alors il y a la bénédiction dans les familles, pour les enfants. Et pour ceux qui ont des enfants qui ne marchent pas encore, je voudrais que vous soyez aussi rassurés. Quand vous priez pour eux, vous invoquez le nom de qui? Le nom de Jésus. Et c'est le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Vous croyez que vous avez invoqué le nom de Jésus et qu'ils ne seront pas sauvés? Non. Ils seront sauvés. Dieu ne nous a pas donné des enfants pour le malheur. Mais il faut les élever, il faut les éduquer. Et peut-être qu'à certains moments, ils ne nous comprendront pas. Ils seront contre nous. Mais on supporte cela, puis on le dit au Seigneur. On dit tout cela au Seigneur. On a affaire avec le Seigneur. Puis on lui rappelle ses promesses. Puis alors, on a tous ces exemples qui nous reviennent dans l'Écriture. Alors, nous avons parlé de Saül. Un roi demandé. Mais il a été mis de côté, puis il a été remplacé par qui? Par David. Et c'est formidable que Dieu ait dit, j'ai vu parmi les fils d'Isaïe quelqu'un qui pourra être un roi pour moi. Le Seigneur l'avait vu et il l'avait choisi. Avant qu'il ne soit couronné. Vous avez cela dans quel chapitre? Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül? Ben, Saül est mort. Hein? Moi, je l'ai rejeté. Il n'était pas encore mort, mais il allait mourir. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis la corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe, à Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. C'est Dieu qui avait vu le roi. Et Samuel dit, mais comment irai-je? Il a peur. Saül l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une jeunesse et tu diras, je viens pour un sacrifice. À l'Éternel, tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire. Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Quand le Seigneur vous envoie quelque part, je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire. Ou bien est-ce que je m'en vais d'abord demander, j'ai une idée pour le Seigneur, puis je m'en vais demander à mes frères, est-ce que vous êtes d'accord que je fasse ça? C'est pas comme ça que le Seigneur me conduit. Le Seigneur nous conduit individuellement. Et puis, il nous confirme les choses. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, Je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire, tu oindras pour moi celui que je te dirai. Mais voilà, ce brave père, combien avait-il d'enfants? 8. Mais combien était-il à la maison? 7. Puis, quand les 4 premiers ont passé, c'était pas eux. Alors que Samuel aurait dit, oui, c'est le premier, hein, là. Celui-là, il est magnifique. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Ne regarde pas à ce que l'homme regarde. Ce n'est pas lui. Puis quand le 7e est passé, ce n'était pas lui non plus. Alors qu'est-ce qu'il dit? Tu n'en as pas encore un? Mais oui, mais il garde le troupeau, il est au champ. Et alors on le fait venir. Et quand il est venu, c'était lui. Je lis le verset 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence, à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel ne l'a pas choisi, etc. Verset 11. Oui, Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il pas d'autres jeunes gens? Il répondit, il reste encore le petit. C'est formidable ça, hein? Il reste encore le petit. Mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il vienne ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était roux, avait de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Et Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour-là et après. Voilà, et Samuel retourne à Rama. Alors, voilà, un homme qui est choisi, Samuel, David. Et qui deviendra le père de qui? Le père de Salomon. Mais, ce que j'ai voulu essayer de vous montrer hier soir, c'est que ce David, choisi par Dieu, qui dit, je l'ai vu et il sera un roi pour moi, eh bien, il s'est aussi éloigné. Il a été délivré de la main de Saül, qui l'a poursuivi pendant toute sa vie. Et une fois que Saül est mort, eh bien, lui, David, a pris la royauté, ce que nous verrons ce soir, et puis, hélas, nous l'avons vu hier, mais j'espère que maintenant c'est dans votre cœur, pas parce que je croyais que vous ne connaissiez pas l'histoire, je sais que vous la connaissiez. Mais il faut que cette histoire vous frappe, vous marque. C'est pas possible que David, choisi par Dieu, qui a fait des expériences merveilleuses, par exemple, il avait tué un ours, il avait tué un lion, il avait tué Goliath, puisse laisser prendre par une femme. Et il en avait, il ne l'en manquait pas. Il avait tout un harem. Dieu tolérait cela. Et alors, tous ces gens-là, ils doivent mourir. Saül est mort, comment? Comment voulez-vous mourir? Comment voulez-vous mourir? Vous devrez mourir un jour. Moi aussi, je le sais. Mais comment est-ce qu'on va mourir? Dans la ligne de Dieu, à la gloire de Dieu? Est-ce que notre mort doit être à la gloire de Dieu? Oui. Un brave chrétien m'a écrit, c'est quand même triste de penser que c'est un cancer qui va te faire rencontrer le Seigneur. C'est pas mon cancer qui va me faire rencontrer le Seigneur. Quand le Seigneur aura dit « je te prends », il me prendra. Il s'occupera de ce qui reste. Mais, chers amis, notre mort doit glorifier le Seigneur. Et on doit aussi penser à ce moment-là. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait ce que le Seigneur lui demandait. Et il y a eu des conséquences. Et vous savez, on paye, Dieu pardonne, David a été pardonné. Vous avez vu, il n'a pas perdu son salut, mais il a été pardonné. Tandis que Saül, lui, il est mort dans son péché. Il est mort dans son péché. Sur les montagnes de Gilboa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. Est-ce c'est à la gloire de Dieu le suicide? On nous parle tout le temps de suicide aujourd'hui. C'est pas à la gloire de Dieu. C'est Dieu qui fait vivre, c'est Dieu qui fait mourir. Maintenant, David, il avait dû lire la parole du Deutéronome, en faire une copie, et il s'en nourrissait. On aura l'occasion de le voir. Ce David, le doux psalmiste d'Israël, vous aimez les psaumes, vous lisez les psaumes, ce sont de très beaux psaumes. On en a lu quelques-uns hier un peu pour montrer ce qui pouvait se passer dans son cœur. Mais est-ce qu'il a vécu longtemps? Il a vécu jusqu'à 70 ans. Non, il est mort. Et maintenant, Salomon, vers lequel nous allons revenir, Salomon, qui avait écrit ses proverbes, vous savez à quel âge il est mort? 60 ans. Alors que Dieu avait dit à l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, un jour, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais un jour tu me suivras, et lui indiquait par quelle mort il glorifierait le Seigneur. Et ça, ça m'a beaucoup frappé. Nous devons mourir, mais pas n'importe comment. Nous devons avoir une mort à la gloire de Dieu. Alors ça nous prépare. Mais ce soir encore, puisque nous avons choisi Salomon pour parler à nos cœurs et nous amener plus loin que Salomon au Seigneur Jésus, nous allons voir comment Salomon, nous l'avons déjà vu, est né. La naissance de Salomon. Puis ensuite, on va voir la croissance de Salomon, sa jeunesse. Et puis ensuite, Salomon aussi a eu une vieillesse. La vieillesse de Salomon, ça fera les trois choses. Naissance, croissance, vieillesse. Et qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vieillesse? Il s'est écarté. Et il n'a pas eu une mort à la gloire de Dieu. C'est pas qu'il est perdu. C'est pas qu'il est perdu. Mais c'est un enseignement pour nous. Et même, et c'est sur cela qu'on termine maintenant, qu'est-ce que David, non, qu'est-ce que Moïse aurait voulu tout au fond de son cœur? Lui qui a conduit pendant 40 ans Israël à travers le désert. Quel était son désir le plus profond? Le faire entrer le peuple au pays promis. Est-ce qu'il a été exaucé? Non. Vous ne m'avez pas honoré au rocher alors que je vous avais dit ce que vous devez faire. Vous avez fait autrement. Vous ne m'avez pas honoré devant le peuple. Tu n'entreras pas. Et Moïse dit, j'ai demandé ça plusieurs fois. Un jour, Dieu m'a dit, ne me parle plus de cette affaire. Et pourtant, il est dit que si Moïse, son élu, ne s'était pas tenu à la brèche devant Dieu jour et nuit, il aurait détruit le peuple. Alors on peut dire, mais alors, Dieu lui devait bien quelque chose. Non. Dieu ne nous doit rien, tout est grâce. Donc Moïse, dans son âge avancé, a eu un manquement. Donc, veillons. Quel que soit notre âge. Puis un autre. David, qu'est-ce qu'il aurait voulu? Seigneur, je voudrais construire une maison pour toi. Est-ce que Dieu l'a laissé faire? Non. Toi, tu ne le feras pas. Pour quelle raison? Tu es un homme de sang. Hein? On croit toujours. Il y en a qui nous disent, moi je ne lis pas la Bible parce que c'est toujours plein de sang. Et il semble que Dieu l'a permis. Il a permis des choses, mais il ne les a pas voulues. Et il n'avait pas à massacrer tout ce monde, comme il l'a fait. Mettant au cordeau, un cordeau pour la mort, un cordeau pour la vie, il a fait ça. Et puis, même des fours pour mettre les gens. Non. Tu étais un homme de sang. C'est pas toi qui bâtiras ma maison. Mais, dans sa grâce, il a un fils. Le fils de l'adultère, du premier adultère, il meurt. Mais une fois qu'elle est devenue sa femme, et qu'il a un second fils, Salomon, eh bien, Salomon est aimé de l'Éternel. Et nous allons apprendre bien des choses à ce sujet. Et je voudrais que vous compreniez que le Seigneur vous aime, mais qu'il nous faut veiller. Et moi avec vous. Dieu notre Père, du fond de nos cœurs, nous voulons te demander que tu nous donnes de ne pas être de ceux qui piquent des versets dans la Bible, mais qui se laissent enseigner par ta parole, depuis la première page jusqu'à la dernière, et qui voient cette cohésion de ta parole, cet enseignement, et que nous soyons des hommes et des femmes remplis de cette écriture, et qu'elle devienne une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, et que dans ce séjour que nous passons ensemble, nous ayons une révélation de ce que tu attends de nous, et que nous soyons prêts à te consulter pour chaque chose, pour chaque détail même de notre vie. Que nous n'essayons pas d'avoir des heures de prière, mais que nous ayons une vie de prière. Tous les jours, où que nous soyons. Afin que nous ne puissions pas nous glorifier d'avoir prié tant de temps, mais que ce soit notre habitude de te consulter en toutes choses et de ne faire que ce que tu nous dis, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Et que le jour où tu le voudras, tu nous reprennes et que nous ayons une mort qui te glorifie. Si tu n'es pas revenu nous prendre avant. Merci parce que nous n'attendons pas la mort, nous t'attendons. Toi, Seigneur Jésus. Amen. Alors ce soir, nous prendrons le péché de David, qu'on ajoute au premier, c'est quelque chose de terrible. Ce qui peut nous arriver, quand on a pourtant fait beaucoup d'expériences avec le Seigneur, et que nous devons être éperdus en lui. Qu'est-ce qu'il a voulu savoir? Quel a été son péché? Alors, savez. Il a voulu savoir sur combien de personnes il régnait, que d'évangélistes. Vous envoie des circulaires. J'ai eu tant et tant de conversions. Et puis alors, forcément, il nous faut de l'argent pour ça. On nous parle d'argent. Les gens sont écœurés dans bien des églises parce qu'on leur parle tout le temps de collecte d'argent. L'argent, ça se donne, on verra, spontanément. Et si le Seigneur vous demande quelque chose, il donnera ce qui est nécessaire. Vous pouvez être sûr de cela. Et il nous bouleverse, il nous étonne. Et nous voudrions encore qu'il y ait des croyants étonnés et qui le montrent au monde et qui ont une histoire actuelle à raconter de ce que le Seigneur leur a montré. Et si les enfants voient cela chez les parents, il y aura une bénédiction. Et vous serez, je pense, aussi émerveillés de voir que, au fond, David, avec toutes ces expériences malheureuses qu'il a eues dans sa famille à cause de ses péchés, eh bien, tout d'un coup, il a compris.